Épisode 7, les îles Mariannes.
Ngunit hindi nakapangyari sapagkat ang mga tao doon ay sumakay sa mga barko, inumog at ninakawan kami bago kami nakapagtanggol sa sarili.
Nang abala kami sa pagbaba ng mga layag dahil titigil na ang mga barko. Mabilis nilang ninakaw ang maliit na bangka na nakatili sa may likuran ng barko ng kapitan.
Galit na galit siya at kasama ng kurentang sundalo, lumusob sa pampang at sinunog ang kurentang hanggang 50 bahay.
Hindi nagtagal, umalis kami patungo uli sa...
Vivono sull'isola in piena libertà. Non hanno padroni, vanno nudi, alcuni con barba e capelli neri lunghissimi legati alla cintola.
Ces gens vivent en liberté et selon leur volonté, car ils n'ont point de seigneur ou maître. Ils vont tout nus et quelques-uns portent la barbe. Ils ont les cheveux longs jusqu'à la ceinture et portent de petits chapeaux de palme. Ce sont des gens grands comme nous. Ils n'adorent rien. Quand ils naissent, ils sont blancs, puis ils deviennent tannés et ils ont les dents teintes alternativement de noir et de rouge, ce qui est du plus bel effet. Les femmes aussi vont nues, mais elles couvrent leur nature d'une écorce étroite et mince. Elles sont belles et délicates et plus blanches que les hommes. Leurs cheveux épars sont fort noirs et longs jusqu'à terre. Elles ne vont point travailler aux champs et ne bougent de leur maison, faisant la toile et des coffres de feuilles de palmier. Leur nourriture est faite de certains fruits nommés coco et patates. Ces femmes oignent leur corps et leurs cheveux avec l'huile de coco et de gionjoli. Leurs maisons sont faites de bois, couvertes de planches, avec des feuilles de figuier qui ont deux brasses de long. Et elles n'ont qu'un seul étage. Les chambres et les lits sont garnis de stores que nous appelons des nattes. Elles sont faites de palmes et sont très belles. Ils couchent sur la paille des palmes, molles et menues. Ces gens n'ont point d'armes, mais emploient des perches au bout desquelles est fixé un os de poisson. Ils sont pauvres, mais ingénieux et grandement astucieux pour les ladreries. C'est pourquoi nous avons appelé ces trois îles les îles des larrons. D'autres les appellent également les îles Magellan, en souvenir de notre capitaine général, ou encore les îles des voiles. Mais souvent, on les dénomme îles Marianne, en l'honneur de Marie d'Autriche, l'épouse de notre roi. Le passe-temps de ces hommes et de ces femmes, et leur amusement, est d'aller sur des barquettes pour prendre de ces poissons qui volent, et ils les attrapent avec des hameçons faits d'os de poissons. Leurs barquettes sont plates et rapides, comme les embarcations que l'on voit à Venise, dont se servent les riches marchands pour chasser dans la lagune. Mais elles sont plus étroites, de couleur noire, blanche ou rouge. Elles portent de l'autre côté de la voile une grosse poutre pointue à l'extrémité, avec des pales en travers qui baignent dans l'eau pour aller plus sûrement à la voile. Ce sont des balanciers, sans quoi la barquette chavirerait. Leurs voiles sont faites de feuilles de palme cousues, à la façon des voiles latines, à la droite du timon. Certaines barques ont des avirons comme des pelles de foyer, et il n'y a point de différence entre la poupe et la proue. Ces barquettes sont comme des dauphins qui sautent d'onde en onde avec grande agilité. Selon les signes que ces gens me faisaient, ils crurent que nous venions d'un autre monde, car ils étaient persuadés qu'il n'y eut point d'autres hommes au monde qu'eux.
Ang mga taga roon ay malayang nabubuhay. Ginagawa kung ano ang maisipan. Wala silang Panginoon o nakatataas sa kanila. Hubad-hubad sila. Ang iba ay may barbas. Mahaba ang buhok nila hanggang baywang.
At samedi, 16 de mars 1521, nous arrivâmes au point du jour à une île élevée, éloignée de 300 lieues de l'île des Larrons. Cette île s'appelle Zamal, que l'on appelle également Samar.
Nous allons accoster, et pour plus de sécurité, nous choisirons une île voisine. Nous y prendrons de l'eau et nous y reposerons quelques jours. Nous allons monter deux tentes pour nos malades et faire tuer une des truies que nous avons prise sur l'île des Larrons.
Le lundi 18 de mars, Après dîner, nous vîmes venir une barque vers nous, avec à bord 9 hommes.
May bunga ang palmito na tinawag nilang kocho, na kasing laki ng ulo ng tao. At may talop na 2 daliri ang kapal at binubuo ng mga hibla o sinulid.
Notre capitaine général, d'ordinaire taciturne et peu bavard, se montra volubile. Nous en étions surpris. Cet homme qui ne parlait que pour donner des ordres se lia d'amitié avec ces gens. 5 des indigènes restèrent avec nous. Les 4 autres s'en retournèrent et allèrent chercher leurs compagnons. Après quoi, ils vinrent tous ensemble. Le capitaine, voyant que ces gens étaient de raison, leur fit bailler à manger et à boire. Leur donna des bonnets rouges, des miroirs, des peignes, des sonnettes et d'autres choses. Notre capitaine était en grande joie. Et eux, voyant son honnêteté, lui présentèrent du poisson, des figues plus longues d'un pied, des cocos et un vaisseau de vin de palme qu'ils appellent en leur langage vraka.
Come noi abbiamo il pane, il vino, l'olio e l'aceto, così quei popoli hanno le stesse cose della palma. Il vino lo fanno in questo modo. Intaccano la palma.
Ces gens de l'île de Samar vivent en toute aisance grâce à la nourriture qu'ils tirent de leurs palmiers. De ces arbres, ils extraient tout ce qui leur est utile, du lait, de leurs fruits, jusqu'aux fibres de l'écorce. Absolument tout leur sert, et ils en disposent avec intelligence. Ils produisent même une sorte de vin. Ils font une incision à la cime de l'arbre, jusqu'au cœur de celui-ci, nommé palmito. De là se distille une liqueur le long de l'arbre, comme un moût blanc, qui est doux, avec un peu de verdeur. Ils ont des cannes, grosses comme la jambe, où ils recueillent cette liqueur en les attachant à l'arbre du soir au matin, et du matin jusqu'au soir, pour que la dite liqueur vienne petit à petit. Ce palmier fait un fruit nommé coco. Il est aussi gros que la tête d'un homme. L'écorce est verte et épaisse. Il s'y trouve des filaments dont ils font des cordages avec lesquels ils lient leur barque. Et sous cette écorce, il en est une autre fort dure. Cette deuxième écorce, ils la brûlent et en font une poudre bonne pour eux. Dessous, on trouve une moelle blanche de la grosseur d'un doigt qu'ils mangent fraîche avec la viande et le poisson. Elle a la saveur d'une amande et celui qui la sécherait en ferait du pain. Du milieu de cette moelle sort une eau claire et douce et fort cordiale qui, lorsqu'elle est un peu reposée et rassise, se congèle et devient comme une pomme. Quand ils veulent faire de l'huile, ils prennent ce fruit et le laissent pourrir. Ils rompent la moelle dans l'eau, puis la font bouillir et elle devient de l'huile en façon de beurre. Quand ils veulent faire du vinaigre, ils laissent corrompre l'eau du coco et la mettent au soleil. Elle tourne au vinaigre comme du vin blanc. De ce fruit, on peut également faire du lait. Je l'ai expérimenté en grattant cette moelle et en mélangeant la poudre qui s'en extrait avec son eau que j'ai filtrée en la passant par un linge. C'était comme du lait de chèvre. 2 arbres entretiennent une famille de 10 personnes. Mais ils ne tirent pas toujours du même arbre. Ils le tirent 8 jours l'un et autant de l'autre. De cette façon, ils durent 100 ans. Et ces familles ne craignent aucune disette, tant ces palmiers sont généreux.
Kapag nais nila gumawa ng suka, ibinibilad nila sa araw ang katas lamang. At ito ay napapanis at nagiging suka, gaya ng alak.
Les gens de cette île prirent grande acquaintance et amitié avec nous et nous donnèrent plusieurs choses à entendre en leur langage et nous dirent les noms des îles que nous voyions devant nous. L'île où ils habitent s'appelle Zuluam. Le capitaine, voyant qu'ils étaient de bonne compagnie, pour leur faire honneur, les mena à son navire et leur montra toutes les marchandises, à savoir girofle, cannelle, poivre, gingembre, noix muscade, or et tout ce qui était dans le navire. Il fit aussi tirer quelques coups de son artillerie, ce dont ils eurent si peur qu'ils voulurent sauter du navire. Ils nous firent signe que les choses que le capitaine leur avait montrées se trouvaient là où nous allions, c'est-à-dire les îles Moluques. L'île où nous nous trouvions s'appelle Humunu.
Ang pulo ng himpilan namin ay tinawag na Homonhon.
Nous y trouvâmes deux fontaines d'eau très claire. Nous la nommâmes l'Aquade. Dans cette île, nous trouvâmes également de l'or. On y trouve aussi beaucoup de corail blanc. Et comme en ce voisinage il y avait de nombreuses îles, nous les appelâmes l'archipel de Saint-Lazare, parce que nous y demeurâmes le jour et la fête de Saint-Lazare. Selon les instructions du capitaine général, nous avons situé ces îles au 10e degré de latitude du pôle arctique et à 161 degrés de longitude de la ligne de répartition. Ainsi, elles tombent dans le domaine espagnol, selon le traité de Tordesillas, qui sépare le monde en deux moitiés. Mais de cette latitude, il y aurait beaucoup à dire. Car nous savions tous que ces îles se trouvaient en réalité au-delà de la dite ligne.
Umayag ang hari at sinabi na siya man ay nais makipagkapatid.
Le vendredi 22e de mars, les habitants de ces îles revinrent avec deux barques chargées de fruits de coco, d'orange, un vaisseau de vin de palme et un coq pour nous faire comprendre qu'il y avait des poules en leur pays. Nous achetâmes tout ce qu'ils apportèrent. Nous demeurâmes en ce lieu 8 jours, durant lesquels le capitaine allait tous les jours voir les malades qu'il avait mis en cette île. Et il leur donnait lui-même à boire de l'eau des cocos, ce qui les réconfortait beaucoup. Auprès de cette île s'en trouve une autre où vivent des gens qui portent de grands piquetés aux oreilles, c'est-à-dire qu'ils ont les oreilles trouées de sorte que l'on peut passer un bras au travers. Ce sont des cafris, c'est-à-dire des gentils. Ils vont nus, excepté autour de leur nature où ils portent de la toile faite d'écorce d'arbres. Ces gens sont tannés, gras et peints. Ils soignent d'huile de coco et de gionjoli pour se préserver du soleil et du vent. Ils ont les cheveux fort noirs et longs jusqu'à la ceinture, et ils portent de petites dagues et des couteaux et des lances garnies d'or, et plusieurs autres choses, telles des dards, harpons et filets de pêche, comme des isalis.
Lundi de la semaine sainte, 25e de mars et fête de Notre-Dame, après-midi, notre lieutenant Pigafetta se tenait sur le bord de notre navire. Il était jeune, vif d'esprit, s'intéressait à tout, mais n'avait aucune compétence maritime. Cependant, sa présence était agréable, sa conversation inépuisable, et il savait tant de choses sur tout, ayant lu tous les livres du monde. Ce matin-là, il s'était mis en tête de pêcher en utilisant l'un de ses hameçons en os de poisson qu'il avait rapporté de l'île des Larrons. Comme il avait plu, le pont du navire était glissant et lui, n'ayant guère le pied marin, glissa et il tomba à la mer sans que personne ne le vît. Ne sachant pas nager, comme la plupart des hommes de mer, il était prêt à se noyer. D'aventure, il trouva à sa main gauche l'écoute de la grand-voile qui pendait dans l'eau. Il s'y accrocha et se mit à crier tant que nous accourûmes pour l'aider et le recueillir dans une barque. Il rendit grâce à Dieu, ajoutant qu'il ne devait nullement d'être, sauf pour ses propres mérites, mais par la miséricorde et la fontaine de pitié. Le même jour, j'ordonnai de prendre le chemin entre le Ponant et le Garbin. Et nous passâmes par le milieu des quatre petites îles qui s'appellent Senalo, Minagar, Ubisson et Abaria.
Giovedì 28 marzo, avendo scorto nella notte un fuoco in un'isola, ci accostammo ad essa e vedemmo una piccola barca.
Jeudi, 28e de mars, comme nous avions vu pendant la nuit du feu dans une île tôt le matin, nous avons mis le cap sur elle. Une barque que les indigènes appellent Boloto se dirigea vers nous, avec 8 hommes à bord. Mon esclave et serviteur, Enrique, comme s'il les avait reconnus, leur cria de loin des mots qu'ils paraissaient comprendre. Enrique était, je le crois, originaire de Trapobama. Je l'avais acheté à Malacca lors de mes aventures de jeunesse dans les Indes. Mais peut-être venait-il en réalité des îles Saint-Lazare. Il leur fit signe de venir à bord, mais les indigènes s'en reculèrent, car ils se défiaient de nous. Je leur ai montré un petit bonnet rouge et d'autres petits miroirs que j'ai fait poser sur une planche et j'ai poussé vers leur barque. Après s'en être joyeusement emparé, ils s'en retournèrent.
Seigneur capitaine, ils disent qu'ils vont aviser le roi de notre venue.
Dahil may naaninaw kaming apoy, noong nakaraan gabi, dumaong kami sa isang pulo noong Huwebes, Marso 28, 1521. At nakita naman ang 8 lalaki.
Tinawag sila ng alipin ng kapitan na taga Zamatra. Ang dating tinawag na kontraproba na...
Ang ginawa ng kapitan, ipinakita sa kanila ang isang pulang cup at iba pang bagay. Itinali sa isang patpat at inabot sa bangka.
Tuwang-tuwang kinuha ang mga ito ng mga lalaki.
Notre joie était intense, car nous venions de nous rendre compte que le domestique qui suivait notre capitaine général comprenait leur langage. Ce garçon s'appelait Enrique. Il était comme l'ombre de Magellan, ne le quittant pas d'une semelle. Le capitaine l'avait acheté lors de l'expédition commandée par d'Albuquerque, aux Indes. Il l'avait amené avec lui au Portugal. Enrique parlait couramment le portugais et l'espagnol, ayant toujours vécu aux côtés de l'amiral. Il était comme son fils adoptif. Il avait tout enduré. La disgrâce de son maître, quand ce dernier, revenu au Portugal, fut rejeté de son souverain, le voyage en Espagne, où il se mit au service de Doña Beatriz, l'épouse du capitaine, Enrique était fort intelligent. Le capitaine lui avait expliqué que la terre était ronde, et qu'en allant toujours dans la même direction, que ce soit vers le ponant ou le levant, on en ferait inévitablement le tour. C'est donc avec un bonheur non dissimulé qu'il accompagna le capitaine général dans ce voyage sur les mers, car cela signifiait pour lui qu'il aurait peut-être une chance de retrouver les siens. L'amiral, en outre, lui avait promis de la franchir. Enrique savait que le jour de sa libération approchait.
Umalis kami nung araw na yon at naglayag sa pagitan ng kanluran at kanluran timog.
Deux heures plus tard, deux longues barques, appelées balagay, arrivèrent. Elles étaient pleines d'hommes. En la plus grande se trouvait leur roi, assis sous un pavillon fait de nattes. Quand ils furent près du navire du capitaine, Enrique s'adressa au roi et ce dernier fut bien surpris de s'entendre interpeller en une langue qu'il comprenait parfaitement. Il ordonna à quelques hommes qu'ils allassent à la nef du capitaine. Magellan les reçut, leur fit bonne chère et leur donna plein de choses. Leur roi, en échange, voulut offrir une barre d'or massif et un couffin de gingembre, mais le capitaine ne voulut accepter ce cadeau. Nous en étions surpris. Comment pouvait-il refuser un lingot d'or qui devait peser au moins 10 livres? L'or, les richesses de ces îles, n'intéressaient donc pas le capitaine général? Il avait enduré avec nous tant de souffrances, et voici qu'au moment de la récompense, il en écartait le bienfait. Mais de quoi était-il fait? Car tout homme, autre que lui, et moi y compris, eût accepté l'or que le souverain de cette île lui remettait en signe de bienvenue.
C'était Magellan, le premier tour du monde, avec Dimeo Giovanni, Antonio Pigafetta, Frédéric Thomas, Antonio Pigafetta, voix française, Nicolas de Gremont, Magellan, José Abeto Z, Enrique, Carlo Tessado, voix du garçon, Kimberly Estayo, voix de la fille.